Merci à tous d'avoir choisi cet atelier. Je ne sais pas combien vous en avez choisi, mais en tout cas, je suis ravi de faire partie des élus. Vu que je suis très novice en la matière, je n'ai même pas de slide me présentant ni présentant mon entreprise, donc je vais quand même le faire parce que ça peut être intéressant. Je suis Emmanuel Chaumier, senior manager chez Converteo dans les équipes médias et CRM. Et Converteo, on est un cabinet de conseil en data et stratégie, c'est-à-dire qu'on est capable de vous accompagner sur tous les sujets liés à la data digitale, que ce soit la collecte, l'analyse ou l'activation de cette donnée. On est ensemble pour à peu près 45 minutes sur un thème autour de l'automatisation, et notamment l'automatisation sur les plateformes d'achat médias. Donc on prendra notamment les exemples de Google et Facebook. Google avec des formats, donc surtout sur la partie SEA avec Performance Max, et Facebook avec ce qu'ils ont lancé récemment, les formats. J'ai toujours un doute, Advance Plus ou Advantage Plus. Merci. On a donc cinq parties pour cette présentation. Une introduction, on va revenir sur l'automatisation. Qu'est-ce que c'est concrètement l'automatisation qu'on croise dans les plateformes? Et ensuite, trois éléments de réponse pour réussir à mieux faire avec toute cette automatisation. Donc en deuxième partie, un focus sur la mesure. Comment est-ce qu'on fait pour alimenter les outils avec une donnée pertinente et profiter de cette automatisation. Une partie 3, optimiser le paramétrage des plateformes. Comment est-ce qu'on fait quand tout est automatisé pour continuer à faire des optimisations dans les plateformes. Et enfin 4, les évolutions qu'on observe, nous, dans les équipes acquisition, pour réussir à profiter au mieux de toutes ces automatisations. Et 5, on essaiera de faire un petit récap pour que vous puissiez vous souvenir en une slide de tout ce qu'on se sera dit pendant ces 45 minutes. Si vous avez des questions, je vais essayer de faire des stops après chaque partie pour que vous puissiez les poser. On va essayer de faire 5 minutes sur l'intro et 12 minutes à peu près sur chacune des parties. Je vais essayer de respecter ça. Et on fera les questions au fil de l'eau. Et à la fin, évidemment, s'il nous reste du temps, on continue sur des questions et vous aurez mon adresse mail s'il y en a qui vous viennent plus tard. Donc pour commencer, sur l'introduction, l'automatisation, pour nous, elle concerne trois éléments clés en achat média. Et on dit toujours, enfin, on a tendance à dire que l'automatisation, ce n'est pas toujours pour du bon, mais c'est quand même aussi sympa d'avoir beaucoup de fonctionnalités automatisées. Je donne un exemple. Maintenant, dans les plateformes d'achat média, on a une tonne d'indicateurs représentés par ces magnifiques icônes, et on a du mal à trouver l'indicateur qui fait foi, l'indicateur à utiliser, l'indicateur sur lequel optimiser. Et donc on verra que l'automatisation là-dessus déjà nous aide à nous y retrouver dans toute cette nuée d'indicateurs. Deuxième élément automatisé, c'est le ciblage. On a énormément de possibilités de ciblage dans les plateformes. Je ne vais pas parler du programmatique ici, mais si vous en faites, vous savez qu'on a énormément d'audiences disponibles, et l'automatisation ici aussi va nous permettre plus facilement d'aller trouver les bonnes audiences, les bonnes personnes. Donc là aussi, merci quand même pour l'automatisation. Et le troisième point qui est automatisé, ce sont les formats. De plus en plus maintenant, les formats se sont démultipliés. C'est difficile de suivre le rythme des nouveaux formats, de créer à la même vitesse que ce que nous exigeraient les plateformes Google et Facebook. Donc on est aussi parfois content quand ils font un peu de travail à notre place, qui nous permettent de diffuser sur tous ces formats. Donc si on les prend un par un, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur l'automatisation quand on parle des indicateurs? Dans les formats automatisés, Performance Max notamment, ou même d'autres formats automatisés sur Google Ads, les plateformes nous obligent finalement à choisir un seul indicateur. On ne se pose plus la question de est-ce qu'il faut que je suive mon taux de rebond, mon taux d'arrivée, mon machin. C'est les indicateurs standards. On vous dit qu'est-ce qui fait foi? Le ROS, le CPA, le CPC, votre visibilité, et les algorithmes vont vous dire en fait tu me donnes un indicateur, le reste on s'en fiche un petit peu, tu peux l'afficher dans tes dashboards, mais on va se concentrer sur un seul indicateur. Donc premier objectif avec l'automatisation, c'est vraiment un effort de simplification qu'on voit dans les plateformes, même si elles nous permettent d'avoir accès à plein d'indicateurs, à la fin elles nous demandent de choisir un unique indicateur comme étant le reflet de notre stratégie. Deuxième chose sur le ciblage, ici c'est un petit peu différent. Quand on parle d'automatisation sur les ciblages, de plus en plus, les plateformes vont nous demander en fait d'arrêter de combiner, de cumuler beaucoup d'audiences. Ils vont nous dire, en fait, donne-moi juste une seule audience, la plus large possible, et moi après je fais le travail de choisir les bonnes personnes dans cette audience très large. Donc ici, de plus en plus, les plateformes nous disent en fait, laisse tomber plus de ciblage, on va s'en occuper pour toi. Et donc un ciblage de plus en plus large, très sympa, on se prend moins la tête. Après on verra, évidemment, ça a des biais, ce ciblage, c'est quand même important de savoir qui voit nos publicités. Et enfin, le dernier élément d'automatisation, comment est-ce que les plateformes font pour nous permettre d'afficher nos créas dans tout un tas de formats différents et des formats pas seulement dans la taille, hein, mais dans le contenu vidéo et bannière. De plus en plus, sur Google, ça s'appelle les campagnes, aujourd'hui je perds mes mots de format, mais les campagnes Smart Display. Et pareil, sur Facebook, toujours, je vais encore dire Advantage, mais c'est pas ça, c'est les formes. Non, Advantage Plus, c'est ça? Ah, ok, je me trompe à chaque fois, je sais plus. Et c'est Advantage Plus Creative, où en fait, on va maintenant être en mesure simplement d'envoyer des assets bruts à Google ou à Facebook, et c'est lui qui va créer les bannières à notre place. Donc on a même plus besoin de se prendre la tête, c'est magnifique. Google et Facebook vont combiner automatiquement des assets, nous faire des déclinaisons et nous permettre d'afficher nos bannières sur tout un tas de formats différents. Donc au final, l'automatisation, c'est quand même... Enfin, après, on va dire que c'est un peu moins bien, mais sur le papier, c'est quand même un mouvement sympa du marché. On fait un effort de simplification, on sait quel est l'objectif de nos campagnes, on choisit un seul indicateur, c'est clair, c'est précis, et ça nous permet d'y voir très très clair sur à quoi sert notre budget média. On fait des ciblages de plus en plus larges, on ne va pas perdre notre temps à faire du ciblage très 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 précis, on va laisser l'algorithme choisir pour nous, là aussi on gagne du temps. Et enfin, la combinaison d'assets nous permet de profiter de tous les formats, de tous les inventaires disponibles, sans avoir à être sur le dos de nos équipes créa, qui aimeraient, elles, faire des belles choses et pas forcément faire la même chose 5000 fois. Donc ça permet aussi de renforcer les relations en interne, mieux s'organiser, et encore une fois, on bénéficie de beaucoup d'inventaires. Donc c'est tentant de faire que ça, mais on va voir quand même dans cette présentation qu'il y a quelques biais, quelques choses à éviter, et notamment, si on applique ces trois éléments, à la fin, on ne peut plus optimiser. Là, on met tous nos œufs dans le même panier, on laisse la plateforme choisir pour nous. On va essayer de voir dans cette présentation comment est-ce qu'on fait pour naviguer au milieu de tout ça, s'en servir quand c'est pertinent, quand ça nous fait gagner du temps et de la performance, et dans quel cas est-ce qu'on les évite pour là aussi être capable d'optimiser et de générer le plus de valeur possible avec nos budgets. Je regarde quand même le temps. Magnifique, pour l'instant, on est dans le temps. Donc la première partie, on va voir comment alimenter les outils, les algorithmes, avec une donnée pertinente pour en tirer les meilleurs résultats possibles. Je vais commencer par le schéma de droite qui va se répéter au cours de cette présentation. Donc, on a représenté l'automatisation de cette manière. L'automatisation, c'est des données qui sont rentrées, qui sont envoyées à un robot, donc qui sera un algorithme, et cet algorithme, ensuite, il achète des espaces publicitaires pour nous. Il achète donc ces petits haut-parleurs, il achète des mots-clés, il achète des espaces pour afficher des bannières. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour optimiser ce processus. J'envoie des données à un petit robot qui me gagne des campagnes qui me permettent d'afficher ma publicité. Quand on se place donc sur le bloc du haut, dans un algorithme, on va pouvoir, dans un mécanisme d'automatisation, on va pouvoir envoyer trois types de données différentes. Les premières données qu'on va collecter et envoyer sont des données de navigation. Les données de navigation, c'est issu de mes assets digitaux, c'est issu de votre site internet. Ce sont les données de conversion, de visiteurs, de pages vues, qui vont permettre d'alimenter un algorithme pour qu'ensuite il soit capable de prendre les meilleures décisions pour nous. Deuxième type de données qu'on peut envoyer à un algorithme, ça va être des données sur nos utilisateurs. On va être capable d'envoyer à l'algorithme des données sur les personnes qui convertissent, des données issues de notre CRM ou des données issues d'utilisateurs logués. On zoomera ensuite par la suite sur que sont ces données, à quoi ça nous sert, pour aller là aussi alimenter l'algorithme. Et enfin, troisième type de données qui va un peu chevaucher les deux précédentes, ce sont les ventes. Évidemment, dans nos algorithmes d'optimisation, on envoie des ventes pour que l'algorithme derrière puisse optimiser en fonction des ventes qu'on lui envoie et nous permettre de générer au final plus de ventes. L'objectif de cette partie, ça va être d'essayer de comprendre comment est-ce que, quand on envoie des données de navigation à un algorithme, quand on envoie des données sur les utilisateurs et quand on envoie des données de vente, comment améliorer la qualité ou la quantité de ces données pour ensuite avoir un algorithme plus efficace. Si on commence par la donnée de navigation, on va avoir deux objectifs, encore une fois, augmenter le volume ou enrichir la donnée. La donnée de navigation, aujourd'hui, on en perd beaucoup avec les logiques de consentement. Ça dépend des acteurs, on devait être, en moyenne, on est à 60-70%. Il y en a qui sont à 50%, les pauvres, il y en a qui sont à 95% d'opt-in, les chanceux. Mais tout le monde perd un peu de données de navigation avec, suite avec la CNIL et les bannières de consentement. Ici, donc, nous, Converteo, première étape quand on veut réussir à collecter plus de données sur son site, c'est d'aller travailler sur les bannières de consentement, A/B tester les bannières pour trouver celles qui vous permettent d'avoir le meilleur taux d'opt-in, mais aussi s'inspirer de vos concurrents, trouver un benchmark de bonne pratique, ou alors prendre des parties pris forts liées au secteur, notamment toutes les bannières que vous voyez, payer ou alors accepter les cookies, qui sont des parties pris très très forts de certaines industries, mais qui sont parfois nécessaires et qui apportent des résultats, même si ça peut dégrader en partie l'image d'une marque. Donc ça, pour nous, c'est premier élément clé pour augmenter le volume de données, travailler le consentement, pas de pirouette pour essayer de récupérer l'information, récupérer du consentement. Deuxième chose pour améliorer les données que vous collectez, contourner des blocages techniques. Donc c'est les blocages qu'on va avoir des navigateurs qui vont refuser d'envoyer de la donnée à certaines plateformes, Google Ads, Google Analytics, Facebook. Pour contourner ces blocages, là, c'est quelque chose qui est très à la mode, l'implémentation server-side, c'est, je ne vais pas partir dans des digressions très techniques, mais c'est revoir la manière aujourd'hui dont vous collectez la donnée. Aujourd'hui, quand vous collectez la donnée et vous l'envoyez vers vos outils comme Google Analytics, Google Ads ou Facebook, quelqu'un qui navigue sur votre site, il y a un pixel qui est envoyé directement vers le site. C'est une implémentation très simple. Maintenant, pour être capable de collecter plus de données, on va pouvoir mettre en place donc des implémentations server-side qui vont requérir une implémentation, de revoir votre implémentation technique avec des compétences un petit peu plus rares sur le marché, mais qui, in fine, vous permettront d'avoir plus de données. Ici, peut-être un message, vous entendrez beaucoup parler du server-side dans les prochains mois. Aujourd'hui, ce sont des solutions qui ne sont pas encore totalement terminées. Il n'y a pas d'urgence à faire du server-side. Mais de plus en plus, je pense que dans un an et demi, beaucoup, vous devrez revoir votre implémentation pour ne plus être sur un TMS classique, mais passer sur du TMS server-side. Et si vous voulez plus d'infos, je vous recommande de contacter Addingwell, pas forcément pour prendre leur solution, mais ils ont une approche assez sympa sur le marché et ils expliquent ça très bien. Ensuite, le troisième point pour avoir une meilleure donnée de navigation et affiner la performance de ces algorithmes, c'est aussi enrichir la donnée. Pas seulement leur envoyer des données de vente, mais leur envoyer des données liées à des micro-conversions. Envoyez-leur des données de personnes qui vont se loguer à votre site. Envoyez-leur des données de personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Envoyez-leur des données de quelqu'un qui voit des fiches produits. Ça va permettre ensuite aux algorithmes de plus seulement automatiser sur de la vente, mais aussi d'automatiser sur des micro-conversions, sur des signaux dits faibles, et d'avoir plus d'informations pour vous ramener du trafic qualifié et des ventes. Là-dessus, l'objectif, c'est d'avoir des plans de marquage médias globaux, c'est-à-dire envoyer à votre plateforme d'achat média des informations sur, encore une fois, les micro-conversions pour les aider à mieux optimiser avec plus d'informations. Sur la donnée utilisateur, on parle beaucoup, beaucoup de données first party en ce moment. Concrètement, à quoi ça va nous servir dans notre logique d'automatisation? La donnée utilisateur, elle a deux objectifs. La première, c'est contrôler le ciblage. Alors en effet, les algorithmes nous demandent de cibler le plus largement possible, mais vous avez quand même le droit de les contrôler un petit peu. La meilleure manière de les contrôler, c'est au moins de leur dire si vous voulez cibler vos clients ou si vous voulez exclure vos clients. C'est un ciblage standard, mais au moins on sait qu'on est sur une campagne d'acquisition ou une campagne de fidélisation-rétention. C'est le premier point, l'exclusion d'audience. Vous pouvez aussi cibler des audiences similaires, donc vous pouvez exclure vos clients, mais cibler les gens qui leur ressemblent. Là aussi, des campagnes d'acquisition standard, mais pourtant très efficaces. Et c'est pour nous, dans le contrôle des algorithmes, un élément clé pour avoir un algorithme qui ne va pas faire n'importe quoi. Les fonctionnalités qu'on utilise dans ces cas-là, sur Google, ça s'appelle Google Customer Match. Sur Facebook, ça s'appelle Facebook Customer List et c'est ouvert à tous sans bêta, sous réserve de ce qui est en italique en dessous, validation, RGPD, du droit d'envoyer évidemment des adresses mail, des identifiants CRM à Facebook ou Google. Le deuxième point, deuxième élément qu'on peut faire avec la donnée utilisateur identifiée, c'est l'amélioration de la réconciliation. Vous pouvez aussi envoyer des données des adresses mail avec des conversions à Facebook ou à Google pour que Google utilise l'adresse mail pour voir s'il a déjà rencontré cette personne. Je donne un exemple. Quelqu'un, un de vos clients envoie une publicité sur YouTube. Il est logué sur son adresse Gmail. 3 jours après, il achète chez vous en donnant cette adresse mail Gmail. Si vous envoyez l'adresse mail à Google, Google pourra dire « Ah bah oui, c'est la même personne qui a vu ta publicité sur YouTube, donc ta campagne YouTube, je lui donne une conversion. » Si vous ne donnez pas l'adresse mail à Google, il sera incapable de faire le lien entre votre campagne et la conversion, donc vous raterez potentiellement une vente générée par cette campagne. Donc c'est aussi pas seulement les adresses mail pour cibler, mais aussi les adresses mail pour récupérer des conversions et mieux attribuer vos ventes à certaines campagnes, notamment sur YouTube, notamment les formats vidéo sur Facebook. Les fonctionnalités ici dont on parle, c'est Google Enhanced Conversion, Facebook Advanced Matching ou TikTok Advanced Matching, ça existe aussi sur TikTok. Enfin, sur les ventes, aujourd'hui, j'imagine que la plupart d'entre vous, quand une vente est réalisée sur votre site, vous envoyez à Google Ads ou Facebook ou Google Analytics des informations, vous envoyez les informations de prix, vous envoyez les informations de quantité, on sait combien de produits ont été achetés, vous pouvez envoyer la taille, vous pouvez envoyer la couleur, et on peut aussi aller plus loin en envoyant des informations un petit peu plus business, par exemple des informations de marge, qui permettront ensuite à l'algorithme d'aller privilégier la vente de produits à forte marge, plutôt que les produits qui coûtent cher. On va privilégier donc de maximiser la marge, ou les informations de stock, où on va pouvoir privilégier de mettre en avant des produits en stock, plutôt que des produits qui ne sont pas en stock, pour éviter de rediriger des personnes vers des pages produits qui ne sont pas disponibles. La problématique ici, c'est qu'on a d'un côté des informations produits qui sont disponibles sur le site, donc ça c'est disponible sur le site, la couleur de chaussures, sa taille, la quantité, c'est souvent des informations facilement accessibles. Par contre, pour les informations de stock ou de marge, parfois ces informations ne sont pas disponibles sur le site. Le stock, ça peut être disponible. La marge, je ne vous conseille pas de la mettre sur votre site parce que vos concurrents seraient un petit peu trop contents de savoir à combien vous margez sur vos produits. Donc, ce sont des sujets qui, techniquement, sont un petit peu plus difficiles à mettre en place, mais à forte valeur, puisque derrière, vous allez vraiment pouvoir optimiser, plus seulement sur du volume de vente, mais vraiment sur des données business, de la marge et du stock. Donc, en résumé, déjà sur cette première partie, un algorithme parfait au niveau de la collecte de données, bah, qu'est-ce qu'on lui donne ? On lui donne des ciblages CRM, on va lui permettre, on va lui dire au moins des clients, pas des clients, et on va commencer à le contrôler de cette manière. D'un point de vue données comportementales, tout à gauche, on va lui envoyer un maximum de volume. On va augmenter notre taux de consentement, on va faire de l'implémentation server-side, et on va lui donner des nouvelles informations. Les personnes qui cliquent sur la newsletter, encore une fois, les personnes qui ajoutent au panier, par exemple. Et enfin, dans les ventes, on va mettre des indicateurs business dans nos pixels de vente, de la marge, des stocks, pour réussir à dire à l'algorithme, arrête de privilégier les produits qui ne génèrent pas de marge et privilégie les produits qui génèrent le plus de marge. Donc là, normalement, c'est le moment où j'ai déjà pris du retard. Ça va, c'est correct. Est-ce que vous avez des questions quand même déjà sur cette partie collecte de données ? Donc je répète parce que c'est enregistré. Donc la question c'est on envoie des données sensibles, enfin en tout cas des données liées à l'entreprise à des tiers, notamment Google et Facebook. Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas réutilisé c'est la grande question. Il y a un encadrement contractuel normalement qui explique que ces données ne sont pas utilisées. Les données sont chiffrées, mais au-delà de cet engagement contractuel. On a quand même la CNIL qui a retoqué GA3 récemment et des lois entre les États-Unis et la France qui rendraient toutes les données envoyées aux États-Unis accessibles par le gouvernement américain en cas de besoin. Donc il y a deux réponses. La première, c'est je ne vois pas ce que Google et Facebook, ils n'auraient aucun intérêt d'utiliser ces informations, parce que si on leur tombe dessus, c'est beaucoup trop risqué. Mais dans les faits, aux États-Unis, ces informations pourraient être accessibles. Donc malheureusement, il n'y a pas de réponse. C'est un choix d'une entreprise avec son DPO de se dire est-ce qu'on y va, on envoie ces informations, est-ce qu'on n'y va pas. Typiquement, au secteur de la banque, ils n'y vont pas. Banque, assurance, c'est sûr. Après, tout ce qui est retail, c'est vraiment du cas par cas. On a beaucoup de clients qui y vont. Il y a aussi beaucoup de clients qui n'y vont pas. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse. C'est pas de blanc ou noir là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie ? Ah, oui.
Juste sur la partie de marge, vous l'évoquiez, c'est un peu chiant de le mettre dans le data layer.
Ouais.
Parce que potentiellement accessible à des concurrents, etc. Ouais, du coup, la solution par rapport à ça, parce qu'on est. Pour le pouvoir en valeur, si on est typiquement dans ce cas-là, où on n'a pas
envie
de dévoiler, finalement, d'avoir cette info accessible.
La solution, c'est d'aller enrichir a posteriori les ventes via des flux de votre système interne vers Google Ads, par exemple. C'est-à-dire Google Ads directement va enregistrer une vente avec un identifiant de transaction. Et nous, ensuite, on va aller faire matcher cet identifiant de transaction. On va retrouver cet identifiant de transaction dans votre back-office avec la marge associée. Et on va pouvoir renvoyer à Google Ads, via un appel API, l'information pour que à J+1, l'algorithme reçoive la marge et puisse optimiser sur cette information. Allez, maintenant que je suis bien en retard, on y va. Deuxième partie, l'optimisation du paramétrage des plateformes. Donc comment, là on s'est un peu cassé la tête parce que quand tout est automatisé, comment est-ce qu'on fait pour optimiser ? C'est pas simple. On a trouvé deux axes qui permettent d'aller optimiser, continuer sa routine d'optimisation des plateformes et pour en générer le plus de valeur, tout en profitant de ses fonctionnalités d'automatisation. La première chose, c'est ajuster le périmètre des algorithmes. On l'a déjà vu avec le contrôle des audiences. On était déjà en train d'ajuster le périmètre, mais on va le voir ici, il y a d'autres solutions pour revoir le périmètre des algorithmes et en tirer le meilleur. Et s'outiller, il y a des outils qui permettent de reprendre le contrôle sur les algorithmes sans aller vraiment impacter le petit robot au milieu, mais qui permettent en tout cas de mieux faire et générer plus de performance. Sur le périmètre, on a donné quelques exemples ici où on a des différents intérêts à automatiser ou non selon des choix métiers d'une entreprise. Par exemple, je vous donne ici un exemple le plus classique du marché sur les campagnes shopping. La loi du 80-20, on se dit qu'il y a une entreprise, 20% des produits génèrent 80% des revenus, 80% des produits génèrent 20% des revenus. Quand on est dans cette situation, plutôt que d'avoir un algorithme qui va chercher à vendre 100% des produits, notre recommandation ici serait d'avoir deux algorithmes. Un algorithme sur les 80% des produits qui ne se vendent pas, où là on lui dit, s'il te plaît Google, essaye de les vendre. Fais ton mieux, nous on n'y arrive pas, on a un problème, positionnement, prix, marketing, que sais-je. Mais on n'est pas les meilleurs sur ces produits. Donc s'il te plaît, là, débride ton algorithme et génère-nous des ventes. Donc là, plein pouvoir pour l'algorithme. Par contre, sur les 20% de produits à gauche, où là on sait que c'est des bons produits, on va potentiellement dire à Google, en fait, ceux-là, on va les mettre dans des campagnes manuelles. Ou alors on va leur mettre un algorithme à part, mais on ne va pas forcément l'optimiser à la vente. On va l'optimiser à la visibilité. Parce qu'on sait que ces 20% de produits, on n'a pas besoin de la puissance d'un algorithme pour les vendre. Donc en fonction de votre facilité, de la popularité, l'efficacité de vos produits, vous pouvez choisir de capitaliser sur l'algorithme dans certains cas et dans d'autres cas, les laisser un peu dans leur coin parce que potentiellement, ils n'ont même pas besoin de publicité pour être vendus ces produits. C'est très simplifié, hein. Je sais que c'est malheureusement pas si simple. Mais gardez en tête, ce qui se vend bien, parfois, pas besoin d'utiliser les algorithmes. Deuxième possibilité quand on parle en termes de contenu. En termes de contenu, on oppose facilement le format vidéo au format bannière. Ici, dans une logique d'automatisation, c'est la même chose. On va privilégier l'automatisation sur les bannières par rapport aux vidéos. Pourquoi ? Parce que les formats bannières, il y en a des centaines. Il y en a des tonnes, responsives ou pas. Il y en a énormément. Donc on se dit, plutôt que d'aller décliner une bannière, moi à la main, 50 fois, pour simplement changer la taille d'un logo, là je vais faire confiance à un algorithme et je vais lui dire, vas-y, je t'envoie tout, décline-moi ça dans toutes les bannières qui existent, tous les formats qui existent. Par contre, sur les vidéos, là, faire une vidéo, c'est plus compliqué. On y met un peu plus d'argent, un petit peu plus de budget. Donc, on a potentiellement plus envie d'aller contrôler comment la vidéo s'affiche, où elle s'affiche, à qui elle s'affiche, parce qu'on a pris du temps des équipes créa. Une équipe créa, si on lui dit bah, « T'inquiète, ta vidéo, après, fais pas les déclinaisons, elle va, et qu'elle tombe sur une de ces vidéos déclinées, ça se passe pas très très bien. » Alors qu'une bannière, potentiellement, elle s'en fiche un petit peu plus. Donc, sur la vidéo, on va avoir tendance à garder le contrôle pour s'assurer que tout le travail créatif qu'on a investi là-dedans est efficace et respecté à la fin dans l'affichage final. Et enfin, sur la stratégie, plus globalement, ce qu'on observe le plus souvent quand on compare la performance au branding, c'est qu'on va privilégier les algorithmes sur la performance parce que les algorithmes, l'automatisation, c'est essentiellement sur de la vente, sur du ROS, sur du revenu. Et on s'en fiche, on veut des ventes. Alors que sur le branding, on est sur de l'image de marque, on est sur de la vidéo, on va vouloir contrôler notre message, comment il s'affiche, à qui il s'affiche. Et donc on va privilégier ici toujours quelques algorithmes pour aller optimiser quand même selon des indicateurs, mais on va contrôler au moins la diffusion. Donc déjà, en fonction du type de campagne, vous allez avoir différents algorithmes qui vont coexister. Donc si on reprend l'algorithme idéal, en fait au final c'est évidemment pas un seul algorithme qui va manger toutes vos données et à la fin faire l'achat média à votre place, ce sont plusieurs algorithmes qui en fonction de vos objectifs vont cohabiter pour vous trouver, pour optimiser de la meilleure des manières selon le périmètre que vous leur aurez donné. Si on continue pour toujours réussir à contrôler ces algorithmes, il y a des outils clés pour réussir à mieux faire, à mieux contrôler ce qu'ils font. On en a identifié notamment deux. Le premier, c'est les premiers types d'outils, c'est ceux qui vont permettre de centraliser les assets. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de faire des modifications à un seul endroit qui seront ensuite répercutées dans tous les algorithmes qui vont récupérer l'information ici. L'exemple le plus commun, ce sont les flux produits. Les outils de flux produits, c'est une mine d'or pour aller optimiser vos titres, vos créas, vos descriptions, et ensuite envoyer ça vers toutes vos campagnes qui se basent là-dessus, donc les formats shopping, et ensuite dans les formats shopping, bah, vos campagnes 80% des produits les moins bien vendus, 20% des produits les plus vendus, et ça permet, vous faites les modifications à un seul endroit, et potentiellement vous faites progresser en performance 10 campagnes différentes en fonction de votre structure de campagne. L'autre élément, c'est le Digital Asset Management, donc un outil de centralisation des créas. Ici, c'est pareil, si on va utiliser une même créa sur 2, 3, 4 campagnes différentes, si vous avez un outil qui permet de centraliser les modifications au même endroit, vous gagnez du temps, vous n'avez pas la peine ensuite d'aller réuploader les créas dans 4 systèmes différents, tout sera connecté et vous allez gagner du temps. Les autres outils qui permettent de mieux gérer la granularité sont évidemment les dashboards. On recommande, nous, à Convertéo, d'aller malheureusement multiplier le volume de dashboards pour être capable, pour vous assurer que chaque campagne est convenablement mesurée. Et un dashboard efficace, qu'est-ce que c'est ? C'est un seul KPI et plusieurs indicateurs. Vos campagnes de performance, dans votre dashboard, on doit voir en gros les ventes ou en gros le ROAS, et ensuite en plus petit, les ventes, le panier moyen, d'autres informations, mais il faut vraiment que vous ayez des dashboards spécifiques pour chaque algorithme, pour chaque objectif, pour être capable de facilement identifier l'algorithme qui marche, l'algorithme qui ne marche pas, et pouvoir ensuite arbitrer vos choix d'optimisation, vos choix de déclinaison d'algorithme. J'ai un peu accéléré sur la fin de celle-ci pour revenir dans les temps. On y est. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Il nous reste 10 minutes. Tenez bon. Donc, on a fait la première partie, quelles données envoyer à nos algorithmes. Deuxième partie, l'automatisation, multiplier les algorithmes, bien les mesurer, les encadrer avec des outils, flux produits, digital asset management. Et maintenant, on rentre dans la dernière phase. Une fois qu'on a fait tout ça, concrètement, est-ce que ça a un impact sur nos équipes ? Est-ce qu'il faut faire changer les expertises ? ou est-ce qu'on peut continuer de faire comme on faisait avant? Évidemment, la réponse est on va changer un petit peu. Aujourd'hui, quand on optimise ces campagnes médias, enfin jusqu'à maintenant, en se disant que l'automatisation n'est pas partout, on avait un flux assez simple. Le matin, on sort nos rapports, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, et l'après-midi, on fait nos optis. On corrige ce qui ne marche pas, et on essaye de faire en sorte que tout fonctionne aussi bien que ce qui marche. Maintenant, dans le nouveau monde de l'automatisation, donc potentiellement, on va avoir un petit peu plus de dashboard, mais un peu moins d'optimisation à faire, puisqu'on se dit que l'automatisation, normalement, les optis, elles se font toutes seules, quasiment, donc on a moins d'optimisation à faire. Donc on va passer un petit peu moins de temps à faire des optis dans la plateforme. Par contre, on va dégager du temps pour des sujets qu'on va appeler des projets de maturité qui vont nous permettre de vraiment passer des caps dans notre gestion de nos budgets médias. Les projets de maturité, on en a trois types de projets qui vont vous permettre de passer un cap de maturité, ou en tout cas vraiment de débloquer un nouveau niveau de performance, on va dire, dans votre gestion de l'achat média. Donc de gauche à droite, on a des sujets autour de déploiement d'outils. Maintenant qu'on a du temps, on va pouvoir aller déployer un flux produit. On va pouvoir aller déployer un outil de gestion de créa. On va pouvoir aller déployer des outils comme Sprinklr, par exemple, sur du social, qui vont rajouter encore une autre brique d'automatisation. Bref, on va pouvoir complexifier un stack ad tech en fonction de nos cas d'usage pour aller réussir à aller encore plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Deuxième projet de maturité, on va aller dans l'optimisation, mais plus seulement l'optimisation de mon Google Ads ou de mes campagnes social, on va aller dans l'optimisation de nouveaux produits. Donc l'optimisation de la gestion de flux, l'optimisation d'outils de digital asset management. Bref, on va pouvoir, le temps qu'on gagne à ne plus optimiser dans les plateformes d'achat média, on va pouvoir l'utiliser à optimiser potentiellement d'autres plateformes. Et enfin, le troisième projet de maturité sur lequel on va pouvoir se lancer, c'est aller plus loin sur le test. Alors évidemment, dès qu'on fait de l'achat média, on fait du test. On a tous testé des audiences, on teste des formats, on teste des créas, bien sûr. Maintenant, on va pouvoir aller plus loin sur des tests plus avancés, ou en tout cas avec une démarche de test plus globale. Je donne un exemple. Avant, l'équipe média faisait ses tests de son côté. Peut-être que maintenant, on va pouvoir faire des tests en collaboration avec des équipes CRO. On va plus seulement AB tester une campagne A et une campagne B, mais on va AB tester campagne A, landing page A, landing page B, et ça sur des parcours beaucoup plus longs pour avoir une approche beaucoup plus globale de la performance de ma campagne. J'arrête de lever le stylo quand la personne arrive sur le site. Maintenant, je continue mon test sur tout un parcours client. Et ça, on peut le décliner entre donc, des équipes médias et analytics, mais on peut aussi aller plus loin simplement sur des tests médias, aller sur des brand lift, des conversion lift, et utiliser des fonctionnalités plus avancées que simplement le simple A/B test disponible dans les plateformes. Transition pas simple, je vais la faire quand même. Pour tout ce type de projet de maturité, évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir déployer des outils, il faut être capable de faire du test. Et donc nous, les nouvelles expertises qu'on voit apparaître dans les équipes acquisition, elles mêlent l'évolution d'expertises qui existaient déjà avec l'arrivée de nouvelles expertises. L'évolution, ça va être des expertises historiques, ça va être sur la gestion de projet. On n'est plus seulement dans la gestion d'agence, la gestion de brief, mais on va aussi être potentiellement sur la coordination de tests. Je veux lancer 15 tests dans l'année, comment je fais pour m'assurer qu'ils ne se chevauchent pas, qu'on est aligné avec les équipes CRO en interne, que mon partenaire Facebook il m'a envoyé ce dont j'avais besoin pour mettre en place mon test. Si je suis une équipe centrale, que le pays qui lance le test est au courant. Donc on est sur une logique de coordination qui change un peu de la coordination actuelle de gestion de briefs de campagne, par exemple. Excellence opérationnelle, évidemment, on a toujours de l'excellence opérationnelle dans la gestion des plateformes, mais on va aussi avoir l'excellence opérationnelle sur d'autres outils, maîtriser des flux, maîtriser des outils de créa, maîtriser des outils ad tech. On élargit le périmètre des traffic managers. Et enfin, suivi budgétaire, si on se dit qu'il faut suivre de plus en plus de tableaux de bord, c'est aussi très pertinent d'avoir dans les équipes les personnes qui sont capables d'aller dupliquer, créer des tableaux de bord, simple à utiliser pour pas que ça devienne évidemment une tannée. Ensuite, les autres expertises transverses à intégrer dans les équipes acquisition, côté ad tech, ça va être compréhension des plateformes et compréhension du tracking. Parce qu'il y a beaucoup plus de données, de complexité à collecter de la donnée. Si vous avez dans vos équipes des personnes capables de comprendre comment cette donnée est collectée, d'aller modifier les tags, vous allez gagner du temps et de l'indépendance par rapport à des relations aujourd'hui avec les équipes analytiques, pas toujours simple. Des expertises transverses au niveau business e-commerce, ce que je le disais, avoir ces espèces de task force, CRO, médias, pour trouver des tests à valeur très très ajoutée pour vous. Et enfin, des sujets de data analyse. Si jamais vous avez des démarches au niveau entreprise sur des sujets comme du MMM par exemple, c'est important aussi d'avoir des owners dans vos équipes qui vont être capables de comprendre ce sujet, de le faire vivre, d'analyser les résultats pour que vous puissiez l'adopter le plus possible et pas dépendre d'une entreprise tierce qui ferait ce MMM pour vous. Marketing Mix Modeling, c'est une analyse qui va prendre toutes les données de levier marketing d'une entreprise, que ce soit du online ou du offline, que ce soit de la publicité ou par exemple des promotions, et qui va être capable ensuite de modéliser le ROI de chacun de ces leviers sur une plage de temps donnée. Donc c'est notamment un outil, donc c'est une analyse statistique, qui vous permet à la fin de comparer par exemple le ROI de campagne offline télé avec le ROI de campagne online YouTube, par exemple. Je suis désolé, j'ai pas vu qu'il avait posé la question, je regarde par là-bas. Voilà, c'était clair. C'est super. En plus de ces nouvelles expertises, on voit aussi, on recommande aussi de mettre en place de nouveaux processus et d'avoir de nouvelles proximités sur ces sujets. Alors la proximité à mettre en place, on a quand même beaucoup parlé aujourd'hui de l'automatisation. C'est pas forcément top, il faut contrôler, mais tout de même, il faut aussi bien renforcer les partenariats avec les éditeurs, parce que plus ils font évoluer leur plateforme, plus ça devient compliqué de s'y retrouver et plus on a besoin d'eux pour qu'ils nous expliquent et qu'ils nous donnent des idées de mieux faire dans leur plateforme. Il y a deux choses qu'on peut débloquer en étant proche d'un éditeur. Premièrement, c'est débloquer des fonctionnalités. Quand il y a des bêtas qui ouvrent, si vous êtes proche de votre account manager Facebook ou Google, vous allez plus facilement avoir l'information que si vous lui parlez trop peu fréquemment. Vous pouvez aussi accéder à des programmes spécifiques. Par exemple, Facebook en ce moment qui fait des programmes de financement sur des logiques de roadmap de test, ça s'appelle Pass to Performance, si vous voulez regarder, où ils peuvent financer une partie de vos campagnes pour faire certains tests sur de l'audience, sur des formats. Et donc c'est la même chose, si vous avez de la proximité avec votre contact Facebook, vous pourrez potentiellement avoir ces informations rapidement sans avoir à dépendre d'une agence ou de votre partenaire conseil. L'autre proximité, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est les comités transverses, se rapprocher d'autres équipes de l'entreprise à des fins d'optimiser le e-commerce au sens large, notamment, pour faire du test and learn et pour faire de l'optimisation. Avant de récapituler, est-ce que vous avez des questions sur ces logiques d'organisation, d'expertise ? Est-ce que ça va ? Ah ouais, merci.
Le vrai sujet, c'est ça, mais ça pourrait aussi être le sujet que tu as. Le vrai sujet, quand même, avec l'automatisation, le mode. C'est quand même, je veux dire, l'objectif principal.
Ouais.
Et ça, c'est compliqué, je pense, pour être prêt à faire un vrai choix sur une année complète. Est-ce que tu arrives à faire des recommandations, de multiplier les choix?
Ouais, c'est ça. Pour nous, la recommandation là-dessus, c'est vraiment multiplier les objectifs. Se dire, j'ai un objectif global de vente, je veux maximiser mon chiffre d'affaires. Mais ce qu'on essaye de faire comprendre aux entreprises, c'est la logique d'incrémentalité. Vous voulez générer des ventes, mais en fait, ce que vous voulez générer, c'est des ventes additionnelles avec le média que vous n'auriez pas généré sans le média. Donc, c'est-à-dire, on veut vous aider à que chaque euro investi fasse une vente supplémentaire que vous n'auriez pas eu sans cet euro. Et quand on arrive à leur parler de l'incrémentalité, on arrive ensuite à leur dire, en fait, les 20% produits que tu vends le plus, si tu dépenses 100 000 euros dessus, tu vas peut-être en vendre 500, mais dans les 500, il n'y en aura que 50 qui sont vraiment des ventes incrémentales. Et on essaye de leur dire, où est l'incrément dans ton business? Et cet objectif global de vente incrémentale nous permet ensuite de le décliner sur les catégories de produits, sur, du coup, on va parler plutôt de, on va envoyer de la marge dans les systèmes pour générer de la marge supplémentaire. Et à partir de, si on part juste de la vente incrémentale, on arrive assez bien à décliner ça en plus petits objectifs par, par type de campagne. Ça passe, ouais, ça passe beaucoup par du test, des conversion lifts notamment. Les conversion lifts, c'est des analyses où on va faire deux, il va y avoir deux groupes, un groupe témoin et un groupe qui va être exposé à ta campagne. Et à la fin de la campagne, on est capable d'analyser le groupe témoin versus le groupe exposé pour se dire est-ce que le groupe exposé à la campagne a généré plus de ventes que le groupe témoin qui n'était pas exposé à la campagne. Et donc comme ça nous permet de savoir si la campagne a réellement généré des ventes supplémentaires, et ça permet de valider l'intérêt de certains formats, l'intérêt de certains leviers pour faire de l'incrément. Je vous fais le récap très rapidement. Une liste de choses à faire ou ne pas faire si on veut vraiment profiter de l'automatisation aujourd'hui. Donc si on reprend nos trois piliers, mieux collecter, mieux optimiser, mieux s'organiser, dans la collecte de données, déjà, deux choses à ne pas faire. Essayer de comparer, de récupérer un volume de données ISO au passé. Ça, c'est terminé, on n'aura plus autant de données qu'avant. Ça ne sert à rien d'essayer de se battre corps et âme pour récupérer autant d'informations que précédemment. On n'y arrivera pas. Il faut un peu abandonner cette lutte. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique. L'autre sujet, c'est comparer à l'an passé sans ne rien faire. C'est sûr que, vu que vous avez perdu de la donnée, si vous comparez à l'année dernière sans essayer de rectifier, même avec une règle de 3, ça ne sert à rien non plus. Donc à la limite, le faites même pas. C'est pas grave. Juste, ayez conscience, le monde évolue, donc les comparaisons sont de plus en plus vaines. Et c'est pas grave, on a quand même des pistes pour avancer. Sur la collecte, qu'est-ce qu'il faut faire? Je le remets ici, parce que c'est vraiment important. Adopter les contraintes privacy, écouter la CNIL, mettre des bonnes bannières de consentement, ne pas prendre de risques. C'est fini la période où on pouvait filouter. Maintenant, on suit les guidelines et on les applique le mieux possible. Et capitaliser sur la donnée first party, la donnée client, la donnée de marge, parce que c'est là qu'est la vraie valeur. Si vous avez le droit d'utiliser vos données clients, super. Si vous n'avez pas le droit, c'est pas grave. La donnée de marge, la donnée de stock, c'est des données qui ont une grosse valeur quand on parle d'optimisation et de plier les algorithmes à sa volonté. Deuxième sujet, sur l'optimisation, on ne recommande pas de passer du temps à trouver des hacks dans les plateformes. Tout est corrigé. C'est sûr que c'est marrant, c'est sympa de se dire « Ah, j'ai réussi à trouver comment twister tel format pour afficher mon truc. » C'est sympa et voilà, c'est un peu geek, on aime bien faire ça, mais tout est patché. Donc ne passez pas trop de temps à faire ça, vous avez mieux à faire. Ignorer les formats automatisés? Non, il faut faire avec. C'est top de pouvoir vendre ces fameux 80% de produits qu'on n'arrive pas à vendre. C'est génial, il faut les utiliser, mais avec parcimonie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'optimisation? Développer les flux produits, la gestion de créa. Encore une fois, les flux produits, on en parle depuis un moment, ça existe depuis longtemps, il y a des super outils qui permettent de faire plein de choses avec ça, et ça génère vraiment de la valeur en plus. Pareil pour la gestion des créas. Et comparé à l'an passé sans rien faire, je pense que c'est un mauvais copier-coller, vous ne pouvez pas en tenir compte. Et du coup, je n'ai pas de deuxième plus pour optimiser, j'espère que vous ne serez pas trop déçus et que je ne vais pas me faire lyncher, mais je pense pouvoir sortir de cette salle sain et sauf. Troisième bloc, l'organisation. Les dons, c'est un traffic manager qui s'occupe de tout. Alors ça, c'est fini, c'est trop dur, il n'a plus le temps, il y a trop d'expertise, c'est trop compliqué, il faut plusieurs personnes, ou alors il faut se faire accompagner. Seul, c'est trop dur. Tenir Google, Meta à l'écart. Alors on en a marre de dire qu'ils sont omniscients, qu'ils sont partout, mais il faut quand même être proche d'eux pour bénéficier de leurs fonctionnalités, bénéficier de leur accompagnement, sans leur donner les pleins pouvoirs, mais en tout cas, être suffisamment proche pour avoir les bonnes infos rapidement avant les autres. Les 12, les initiatives cross-expertise, on a déjà parlé, mais maintenant le média va faire encore plus de choses avec la data, va faire encore plus de choses avec du CRO. Donc vraiment, parlez-vous, créez ces comités, même si c'est 2 heures dans le mois, qu'est-ce qu'on fait, quel test à lancer, et essayer de synchroniser tout ça pour générer le plus de valeur possible. Et enfin, se faire accompagner d'un partenaire, puisqu'il fallait quand même que, j'ai pas mis de slide sur Converteo, mais il fallait bien que je mette quand même un truc comme ça dans cette slide, dans cette presse. Se faire accompagner, pourquoi? Parce qu'on peut vous aider à compléter le traffic manager, on peut vous aider à avoir des relations de proximité avec Google et Facebook, et on peut vous aider à vraiment réussir à maîtriser ces algorithmes et l'évolution et surfer sur l'évolution du marché qui est de plus en plus rapide. Voilà, je pense que J'ai dépassé de 2 minutes, j'espère que je ne vous ai pas mis en retard. Merci en tout cas pour... Merci pour ça. Et ça aussi, j'étais très fier de l'avoir mis. Stand B29, voilà, si vous voulez venir en parler. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, si vous voulez venir échanger, n'hésitez pas. Je ne sais pas du tout comment ça se passe pour partager les presses, mais si vous voulez les slides, venez me voir, filez-moi vos mails et je vous les envoie. Merci beaucoup.